C'est vrai que c'est une vraie joie d'être au milieu de vous et dans cette église. Et c'est vrai qu'on est vraiment bien dans cette église. On se sent en famille, c'est vrai, entre frères et sœurs. Et c'est vrai, depuis qu'on est là, ça fait maintenant une année à peu près et demie, on s'est dit, mais vraiment, cette église, c'est une bénédiction. On s'est senti tout de suite bien accueilli dans cette église. Et je pense que c'est vraiment une force que vous avez, la force de l'accueil, d'accueillir les gens au milieu de vous. Et ça, je voulais vraiment vous dire, faut pas perdre ça. Église d'Aubergenville, d'accord? Et c'est vrai que nous qui venons de la Suisse, de l'étranger, dans ce monde français qu'on connaissait pas trop, alors on a été contents d'être accueillis au milieu de vous. C'est vrai qu'on n'est pas toujours là, c'est vrai que on profite aussi de visiter les églises de la région. Vous savez, quand on est pasteur, on est un peu marié à l'église. Enfin, on est un peu là tout le temps, quoi. On peut pas aller à gauche, à droite dans toutes les églises visiter parce qu'on est impliqué dans l'église. Tous les dimanches, il y a des choses. Et c'est vraiment une opportunité pour nous d'être là à Paris, 10 millions d'habitants, autant d'églises. Et on profite aussi de temps en temps de visiter d'autres églises. Alors, on n'est pas toujours au milieu de vous, mais on vous aime très fort quand même. Amen. Et puis, c'est vrai que ces derniers temps, je réfléchis beaucoup à la vision de l'église. Alors, vous savez, moi, j'aime l'église, vraiment. Sinon, j'aurais pas fait pasteur. D'ailleurs, au début, je voulais pas trop. J'avais un peu peur d'être pasteur. Mais vraiment, j'aime l'église. J'aime les gens. Et quand j'étais pasteur en Suisse, vous savez, l'église, c'est un peu comme des enfants. Ils se chamaillent tout le temps. Ils sont fatigants. Ils sont là et ils se disputent, etc. Mais qu'est-ce qu'on les aime, n'est-ce pas? Moi, j'en ai pas encore, mais j'ai vraiment vécu ça un peu dans l'église. Et dernièrement, ben, c'est vrai que je réfléchis beaucoup à quelle est la vision, quelle est la mission de l'église. Qu'est-ce que l'église doit faire? Et, j'ai pas mal réfléchi et je pense que le Seigneur j'aimerais vous partager ça ce matin. Le Seigneur a mis ça sur mon cœur aussi pour vous, église d'Aubergenville. Alors, en fait, c'est quoi la mission de l'église? Vous avez déjà réfléchi? Ah, ça c'est excellent, c'est magnifique. Ouais, ça peut être ça, en effet. Ça peut être faire des repas de Thanksgiving aussi. Hein. C'était très bien aussi. Mais on va lire ce que Jésus dit justement. Et vous allez voir, c'est un passage archi connu. C'est dans Matthieu. C'est dans ce moment où Jésus va partir. Il est sur le mont des Oliviers, juste avant de partir. Vous voyez le mont des Oliviers où c'est? Qui sait qu'elle est en Israël déjà? Ah, il y a quand même quelques-uns. Vous voyez le dôme du rocher, hein, là où c'est très disputé avec les musulmans et tout ça, vous voyez ce dôme. Il y a une petite vallée à côté, là, la vallée du Cédron, et vous remontez comme ça, et il y a le mont des Oliviers qui donne vraiment face de Jérusalem. On voit très bien Jérusalem depuis le mont des Oliviers. Et là, Jésus est avec ses disciples, et même plus que ses disciples. Il n'y en a pas que 12, hein. Il y avait aussi tous ceux qui s'étaient convertis avec lui. Il y avait vraiment un bon petit nombre. C'est Matthieu 28, hein, je vais vous dire la référence. Je vois qu'il y en a qui cherchent là. Et je vous mets en contexte un petit peu avant de vous lire. Matthieu 28, à la fin du chapitre. Je trouve aussi. Et Jésus est avec Matthieu 28, verset 18. Et Jésus est avec ses disciples, et en fait, il faut bien comprendre que ça, c'est l'Église. Il est avec son Église à ce moment-là. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont là. Et il faut savoir que l'Église, c'est pas un bâtiment. Il faut bien se rappeler ça, parce que des fois, on a un peu tendance à l'oublier. L'Église, c'est des personnes. C'est le rassemblement des croyants. Alors, vous me direz pourquoi, mais parce que dans le Nouveau Testament, il y a vraiment eu un changement. D'ailleurs, tout à l'heure... André nous a bien dit que, nous a parlé du tabernacle. Dans l'Ancien Testament, le tabernacle, c'était le lieu de la présence de Dieu. Et Jésus, il est venu, après il y a eu le temple, hein. Et Jésus, quand il est venu, il a ouvert le passage jusque dans le lieu saint, il a déchiré le voile. Et la présence de Dieu s'est répandue et maintenant habite dans chaque croyant. Il n'est plus dans un lieu à Jérusalem, dans un temple, mais il est dans chaque croyant. C'est pour ça que Pierre dit, vous êtes des pierres vivantes dans son épître. Vous êtes des pierres vivantes. Et il dit aussi que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc ça, c'est l'Église. Et d'ailleurs, on ne devrait pas dire « je vais à l'Église ». C'est faux de dire ça. Puisqu'on est l'Église. L'Église, c'est le rassemblement des croyants. Alors, c'est mieux qu'on se rassemble peut-être à l'abri que dehors, s'il pleut, hein, comme ce matin. Donc voilà. Donc Jésus, il est avec son église à ce moment-là, et c'est important de le comprendre. Et il dit la chose suivante au verset 18, un texte archi connu, Matthieu 18, 28, 18. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors voilà, c'est ça la mission de l'Église. Qui c'est qui avait répondu à l'ouvre? Tout ça, c'est très bien, mais ça, c'est la mission de l'Église aussi. Et on va essayer d'en parler ce matin. Appeler à faire des disciples. C'est la première chose qui est dit au verset 18. Et il y a comme un mouvement vers l'extérieur. Regardez comme ça commence. Allez, c'est un impératif. Allez vers les nations, toutes les cultures. Notre mission, elle s'exerce hors de l'Église. Et faut en prendre conscience. Elle s'exerce pas dans le bâtiment. On est là pour se rassembler, pour se faire du bien, pour s'encourager. Mais notre mission, elle est à l'extérieur. Vous savez, pour faire tourner une église, il faut pas beaucoup de monde, hein. Il faut un petit nombre, hein. Il faut quelques-uns pour faire la... Bon, vous êtes pas mal quand même pour la louange. il faut quelques personnes pour faire la louange, il faut quelques personnes pour conduire la Sainte-Seine, la prédication. Mais ça, c'est une petite partie du ministère de l'Église. Ça, c'est la partie qu'on voit de l'iceberg. Mais il y a tout le reste en dessous. Et en fait, on est l'Église. Partout où nous nous trouvons, sur notre lieu de travail, sur notre lieu de dans nos familles, à l'école, à différents endroits, là est l'Église. Elle n'est pas dans un bâtiment en train de se cacher, elle est à l'extérieur. Et ça, c'est important de comprendre. La deuxième chose que je me dis en lisant ce texte, je me dis, mais comment faire des disciples? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment je peux faire des disciples? Moi, en tant que chrétien. En tant que disciple. Alors, je me pose la question, je me dis, c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui, en qui s'est passé quelque chose. Il y a eu une transformation, il y a eu un changement dans sa vie. C'est ça, un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose. Il y a un avant et un après, si je réfléchis bien. Et un disciple, c'est un disciple de quelque chose ou de quelqu'un. On dit disciple d'une, peut-être d'une doctrine ou d'une personne. Et nous, on est disciple de Jésus, c'est ça. Vraiment, il s'est passé quelque chose dans notre vie. Et si on prend, je donne le micro à tout le monde ici ce matin, on a tous un témoignage de conversion ou de changement dans notre vie différent. Pour les uns, c'est extraordinaire, ils ont vécu des miracles, ils ont été touchés. D'autres, c'est peut-être plus, comme tu disais ce matin, comme C.S. Lewis, c'est passé plus par la logique. D'ailleurs, logique, vous savez que Jésus, c'est le logos, hein. C'est la logique aussi. C'est lui qui... La Bible, c'est aussi rationnel. C'est pas que spirituel. Enfin, c'est spirituel, mais c'est il y a une logique aussi derrière. Et peut-être ça a été des cheminements. Pour certains, ça a été brutal. C'était un changement. Bref. Et c'est ça un disciple, en fait, si on y réfléchit bien. Alors comment on peut faire ça? Comment on peut transformer la vie de quelqu'un? C'est pas possible. Comment vous pouvez faire ce changement dans une personne? Comment faire des disciples? C'est pas nous qu'allons transformer quoi que ce soit, qui que ce soit. On est bien d'accord que c'est Jésus. C'est Jésus qui fait des disciples. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est montrer Jésus. Ça, c'est notre rôle. C'est notre rôle, c'est ce rôle de, comme de témoin, de montrer Jésus. Parce que si on prend par exemple les disciples de Jésus, comment ils sont devenus disciples? Je reviens un peu en arrière. C'est aussi en rencontrant Jésus. Si on voit le témoignage de Pierre, Pierre il est en train de pêcher des poissons, et Jésus passe, et on ne sait pas ce qu'il se dit exactement entre eux, et puis il lui dit, suis-moi. Et Pierre il abandonne tout. Il abandonne son travail, et il suit Jésus. Une rencontre avec Jésus. Ça peut changer votre vie. Si on prend l'exemple d'autres disciples, il y en a eu tellement. Mais si on prend par exemple Paul. Paul, lui aussi, alors lui, c'était encore plus radical. Lui, il persécutait les chrétiens. Il les envoyait en prison. D'ailleurs, il était sur le chemin de Damas pour en mettre quelques-uns en prison. Et qu'est-ce qui se passe sur le chemin? Il rencontre Jésus. Il voit Jésus. D'ailleurs, les gardes autour de lui, enfin, ils le voient pas, ils entendent, mais ils le voient pas. Et il voit comme une lumière. Il y a cette rencontre avec Jésus, et là, il y a une transformation dans sa vie. C'est plus le même. Celui qui persécutait annonce l'évangile. Celui qui mettait les chrétiens en prison est lui-même chrétien maintenant. Alors vraiment, c'est ça l'évangile. C'est ça cette transformation du disciple. Et on peut pas transformer les gens, mais on peut montrer Jésus. Ça, on peut le faire. La semaine passée, j'ai eu un téléphone avec ma sœur et elle était toute réjouie parce que elle venait de vivre quelque chose d'extraordinaire. Une amie à elle s'était convertie parce qu'elle l'avait invitée à l'église. C'était dans le cadre d'une semaine d'évangélisation. Et elle me partageait sa joie de dire mais moi je suis chrétienne, j'ai grandi dans une famille chrétienne et voilà que on parle de Jésus, de ce qu'il fait, mais là j'ai vu une vie transformée. J'ai vu quelqu'un venir à Jésus et elle était toute réjouie quoi. Elle me disait mais j'ai tellement pas fait grand chose. Je l'ai juste invitée à venir. Alors c'est une amie en fait d'école en fait de sa fille en fait. Enfin non, c'est une mère de là où je vais y arriver. C'est la mère de la copine à sa fille. Et en fait elle la voyait à l'école, elle lui parlait du Seigneur comme ça mais c'est arrivé quelques fois, pas souvent. Et un jour elle a fait le pas d'inviter cette personne. Et un jour, dernièrement, elle me disait que cette personne lui disait, mais heureusement que tu m'as invité. Elle lui disait, mais comment ça se fait? Parce qu'il y avait aussi d'autres personnes qui lui avaient parlé, elle avait raconté. Ma sœur n'a pas été la seule personne sur son chemin, il y a eu d'autres personnes. Elle lui dit, mais toutes ces personnes qui m'ont parlé des fois de Dieu ne m'ont jamais invité, n'ont jamais fait ce pas. C'est une toute petite chose. Et ma sœur me disait, mais des fois, nous, on vit dans notre monde et on se dit, mais on va passer pour une secte si on invite quelqu'un. Ils vont venir là, ils vont dire voir tous ces gens lever les mains. Surtout l'église d'Aubergenville, ils sont très spéciaux. Ça crie, ça fait du bruit, tout ça. Et ils vont dire, mais on va nous voir comme des gens bizarres. Et on a un peu cette mentalité de ouais, on a dit ce matin qu'il fallait semer avec abondance, semer. Et on a peur des fois, on a peur dans ce monde, dans ce contexte, de tout ce que les gens vont penser. Et on n'ose pas. Et elle a fait le pas, elle l'a invité. Et elle me disait, mais tu sais, Christian, c'est pas grand chose, en fait, d'amener quelqu'un à l'évangile et de faire des disciples. Et ça m'a fait réfléchir. Être des témoins. Voilà ce que Jésus nous demande. Être des témoins. Et dans le texte que je vous ai lu ce matin, il y a un autre texte, il y a autre chose que Jésus dit. C'est pas dans Matthieu, mais c'est dans Actes. Jésus dit dans Actes 1, verset 8. Actes 1, verset 8, vous connaissez aussi par cœur ce passage. Je vous dis vraiment des grandes vérités ce matin. C'est parce que des fois, on a besoin de revoir ces fondements de l'Écriture. Dans Actes 1, verset 8, il est dit, « Vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. » D'ailleurs, il voyait bien Jérusalem, puis le monde des Oliviers. « À Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà notre mandat, être témoin de Jésus. Et vous savez, ils n'étaient pas beaucoup à ce moment-là, les disciples, hein, une petite poignée. Hein. C'est comme si ce matin, voilà, c'est peut-être ce nombre hein, qu'il y avait autour de Jésus à ce moment-là quand il dit ça. Comme s'il disait à l'église d'Aubergenville, vous serez mes témoins à Aubergenville, hein, église d'Aubergenville, dans les Yvelines, et en France, et jusqu'aux extrémités de la terre. Hein. Il n'y a pas tout le monde qui a dit amen. Hein. Parce qu'on se dit quand même, faut déjà que je commence dans mon quartier. Hein. Si déjà je fais des disciples ici, je passerai après au-dessus. Mais vous savez, Jésus leur dit ça, et je suis sûr que les disciples aussi doutaient de ça. D'ailleurs, vous verrez, juste le verset d'avant, il est écrit qu'ils doutaient du Christ ressuscité. Mais Jésus est en train de nous dire, mais vous serez mes témoins, mais vous serez pas tout seul, ne doutez pas. Cette puissance de Saint-Esprit, cette présence, je suis avec vous, vous pourrez être témoin parce que je suis avec vous. Je vous en qualifierai, je vous donnerai l'autorité aussi de l'être et ma puissance va vous accompagner. Vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alors, n'essayons pas d'être témoins sans avoir cette attestation, c'est Jésus avec nous aussi. Soyons convaincus qu'il est avec nous, ne doutons pas. Mais ma réflexion ne s'arrête pas là. Témoin, c'est bien, mais comment? Comment être témoin auprès des gens qui ne connaissent pas le Christ, qui connaissent pas Jésus. Et là, je vous renvoie à deux images que Jésus a données dans le sermon sur la montagne. Il a dit, il a appelé l'église à être, à avoir cette double mission de témoin au travers de deux images qui est vous êtes le sel et la lumière. Vous êtes sel et lumière. Et en fait, quand on réfléchit à ces deux images, qu'elles sont données en même temps d'ailleurs, il y a une tension dans ces deux images. Il y a une difficulté. Alors, être lumière, ça c'est compréhensible. Être lumière, c'est dire la vérité. La lumière, c'est ce qui éclaire. La lumière, c'est ce qui éclaire, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. C'est clair et net. C'est le contraire du mensonge. Le mensonge, c'est ce qui est caché, tapis, la lumière, quand ça éclaire, c'est comme un projecteur et c'est clair et net. Et nous, on est appelés à être une lumière. À vivre dans la vérité. Même si c'est pas toujours facile. Mais il y a une deuxième image que Jésus a donnée qui est peut-être plus difficile. Il nous a appelés à être sel. Et ça, le sel, c'est un peu plus difficile à comprendre. Alors le sel, c'est quoi? Le sel, c'est ce qui donne du goût aux aliments. Cuisine sans sel, c'est bien pour l'organisme, mais pas de bon pour le palais. Et c'est vrai que le sel, c'est ce qui donne, mais il faut que le sel soit en contact avec les aliments pour que ça fonctionne. S'il n'est pas en contact avec les aliments, ça donne pas de goût. Et une deuxième propriété du sel qui est intéressante, c'est que le sel se dissout dans les aliments. On le voit plus. Il disparaît. Il fait partie des meubles, si je puis dire. Il est là, mais on le voit pas. Et c'est peut-être une notion qu'on a un peu plus de peine. Parce que d'un côté, il faut être dans la société, presque être, faire partie de la société. Il faut être dans ce monde. Mais en même temps, faut pas être du monde. Faut pas être de la société. Faut garder le message. En même temps, mais il faut donner du goût à l'évangile. Il faut attirer les gens à l'évangile. Faut que ce soit compréhensible. Et ça, on a des fois un peu de peine, les chrétiens. On est très fort sur la lumière, mais sur le sel, un peu moins. Je dis le premier, hein. Je suis dans le même lot. C'est vrai que quand on réfléchit même à notre façon de parler, le fameux patois de Canaan, on a de la peine à en sortir. Si vous allez dans la rue demain et puis vous rencontrez le premier venu, vous dites « Mon frère, le Seigneur Jésus veut te sauver. » Qu'est-ce qu'il va vous dire ? Déjà, je suis pas ton frère. Ensuite, je suis pas en train de me noyer. Et deuxièmement, c'est qui ce Jésus-là qui est 2000 ans là et puis il existe aujourd'hui? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est un homme, mais il est mort comme tout le monde. Il y a 2000 ans, c'est fini maintenant. Vous voyez un peu la peine qu'on a des fois d'être compréhensible, d'être le sel, donner envie. On a des fois tellement des formules consacrées, une manière de parler, une manière de penser, que des fois on a de la peine à se mettre à la place de l'autre. Tout simplement. D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire. J'avais un brave frère dans l'église qui était tout feu, tout flamme, vraiment pour le Seigneur. Et un jour, on avait fait une évangélisation et on avait mis un chaudron de soupe. On avait fait ça à l'entrée de l'église, c'était la période de Noël. Un petit gros chaudron, là, en cuivre. Et là, on faisait une bonne soupe, on donnait ça aux gens, puis c'était pour les attirer à l'intérieur, parce qu'on avait tout un programme. Et il était là un jour, et il y a une personne qui vient et il lui parle du Seigneur. Là, il se présente même pas, quoi, il lui balance la sauce. Depuis la création, en passant par Jésus, jusqu'à la fin du monde, avec verset à l'appui, patati patata. Et là, une scène vraiment à mourir de rire, la personne le regarde comme ça et dit « I'm sorry, but I'm not speak French. » Ah, non, il a pas refait. Parce qu'en anglais, c'est trop difficile. Alors, on est un peu comme ça. Et Jésus, il veut pas qu'on soit des blocs de sel, vous voyez ce que je veux dire? Il veut pas qu'on soit dans l'église, là, bien, des blocs de sel, il veut qu'on soit en contact avec la nourriture. Il veut qu'on aille dans cette société et donner du goût à l'évangile. Donner cette saveur que donne le sel. Et dans la première église, c'est ce qui s'est passé. Si vous regardez dans Acte 2, ben, il y a la naissance de l'église. La Pentecôte, la puissance de Dieu qui descend. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? L'église est bien entre elles, elle vit de belles choses. Mais à un moment donné, Acte 7, il y a le martyr d'Étienne. Étienne qui est tué, tout ça. D'ailleurs, martyr, vous savez que ça veut dire témoin, en grec. Enfin, je vous encourage pas à être martyr, mais Après, au verset, au chapitre 8, il y a une persécution qui vient à partir du martyre d'Étienne. Une persécution violente. Il dit dans Actes 1, verset 8, sauf erreur, qu'une grande persécution commença contre l'église de Jérusalem. Acte 8, verset 1. Une grande persécution commença contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans la Judée et la Samarie. Intéressant. Tous. Vous savez, quand on est trop bien entre nous, dans nos zones de confort, le Seigneur nous met un petit coup de pied comme ça, tac, pour qu'on puisse aller accomplir un peu la mission qu'il nous a demandé. Parce que c'est ce qui s'est passé. Ils ont été témoins en Judée et en Samarie. Alors, certes qu'ils sont partis, c'était pas évident de partir dans un contexte de persécution, mais Dieu avait bien préparé les choses. Ils avaient mis tout leur bien en commun, il est dit, tout début, acte 3, 4, là, qu'ils mettaient leur bien en commun, ils vendaient leur maison. Et heureusement, ils n'ont pas perdu grand-chose. Le Seigneur fait bien les choses. Mais ils sont là, témoins en Judée et en Samarie. Et des fois, Dieu nous pousse un peu pour qu'on puisse être témoins. Il nous fait sortir nos zones de confort, comme il a fait dans cette première église. Alors c'est ça, faire des disciples, c'est pas nous qui le faisons, mais c'est Jésus qui le fait. Nous, notre rôle, c'est d'être témoins, là où Dieu nous a placés. Et être témoin, c'est toujours cette tension entre sel et lumière, c'est-à-dire entre quelque part aimer le pécheur, ne pas aimer le péché, et notre tentation très souvent c'est soit on veut garder la lumière, on reste dans l'église et puis on n'est plus sel, on n'est plus en contact avec les aliments, ou bien des fois notre tension c'est d'être tellement en contact avec les aliments qu'on prend la lumière, comme Jésus a dit, et on met sous le boisseau, on la cache. Au lieu de la mettre sur un chandelier pour qu'il éclaire, on change notre message et on la met sous un boisseau. D'ailleurs le terme biblique c'est une mesure à grain d'environ 8 litres, on cache ça là-dessous, on cache la lumière et il n'y a plus de lumière. Donc faites attention, faisons attention en tant que chrétien de garder cette tension entre sel et lumière. Mais il y a une deuxième chose que Jésus dit à ses disciples, la deuxième partie du verset. Faire des disciples c'est bien, les baptiser c'est bien, d'ailleurs le baptême, si jamais c'est juste la concrétisation extérieure de ce que Dieu a fait à l'intérieur. C'est juste ça le baptême. Le baptême, c'est il s'est passé quelque chose dans ma vie, je suis devenu disciple, nouvelle naissance, alors je vais me faire baptiser pour que ce qui est caché devienne visible devant tous. Je vais inviter du monde, je vais me faire baptiser. Donc faire des disciples c'est bien, les baptiser c'est bien, mais la deuxième partie du verset, qu'il reste disciple, c'est encore mieux. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 20 ? « Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il y a quelque chose à garder. Quelque chose à garder. Ça veut dire qu'on peut le perdre. Attention de bien garder. J'ai eu l'occasion de voir dans ma vie chrétienne, des gens qui sont devenus disciples, qui ont cru, qui ont marché, qui se sont fait baptiser, qui ont suivi le chemin, et aujourd'hui, je les vois plus en tant que disciples. Peut-être que vous auriez bien des témoignages à donner aussi de personnes que vous avez vues. C'est pas tout d'être disciple, il faut le rester. Et finalement, quand on y réfléchit bien, garder quelque chose, c'est finalement renoncer aussi à quelque chose. C'est finalement un choix. À un moment donné, on ne peut pas garder que ce qui nous arrange. Regardez ce que dit le verset. Gardez tout ce que Jésus... Comment c'est écrit ? Gardez tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je... Pas seulement une partie. Pas seulement ce qui nous arrange. Et j'aime bien parler avec mon frère, parce que mon frère, il est un peu philosophe sur les bords, comme ça. Si vous le connaissez, il a toujours quelque chose à dire. D'ailleurs, il est un peu français. Parce qu'il vit en France, en fait. Il est marié à une Française, d'ailleurs. Et il a toujours plein d'idées, plein de choses à raconter. Et un jour, il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit, vivre, c'est choisir, et choisir, c'est renoncer. Je vous laisse ça. C'est pas dans la Bible, si jamais, faut pas noter. C'est de mon frère. Alors, quand on réfléchit, on se dit « vivre, c'est choisir, et choisir, c'est renoncer ». Vous êtes au restaurant, commandez le menu du jour, et dedans, vous avez le droit à un dessert. Vous arrivez au dessert, et puis la patronne du truc, là, vous dit « mais il faut aller choisir votre dessert sur le plateau à dessert ». Vous vous réjouissez, tac. Et puis là, vous vous rappelez que vous avez le droit qu'à un dessert. Et quand vous voyez tous ces bons desserts, vous dites « oh là là, ça va être dur !» Parce que j'aimerais bien prendre ça, et un peu de ça, et un peu de ça, mais vous pouvez en prendre qu'un. Si je prends ça, je peux pas prendre ça. Et donc c'est vrai, si je choisis quelque chose, je renonce à autre chose. Ça va? Je vous donne un autre exemple parce que vous avez l'air sceptique. Sur les desserts, ça c'est trop simple. Mais quand votre cœur bat pour quelqu'un, ah, ça c'est plus intéressant que des desserts. Quand vous rencontrez quelqu'un et que votre cœur bat pour elle, vous l'épousez, qu'est-ce que vous faites? Vous la choisissez. Vous décidez de vivre avec elle. Et qu'est-ce qui se passe? Mais vous renoncez à 3 milliards d'autres femmes sur la Terre. C'est horrible, hein, c'est... Mais c'est une réalité. Je dis ça pour ma femme, pour la rassurer. Eh ben, c'est pareil être disciple, tout simplement. C'est pareil. À un moment donné, il y a le plateau de la vie qui passe devant vous. Dans votre vie de disciple, ça arrive. Et à un moment donné, vous devez choisir entre ce que le monde vous propose ou bien garder Jésus. Et c'est là qu'il faut garder Jésus tout entier. Ne pas tomber dans le compromis. Ce matin, il y a Samuel qui nous a lu un passage que j'avais noté. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Dans 1 Jean, chapitre 2. Et dans cette même épître, un peu plus loin, il est dit, car l'amour de Dieu, c'est de garder ses commandements. C'est ça l'amour de Dieu. C'est pas l'amour, aujourd'hui j'aime, demain j'aime plus, quoi, je passe à autre chose. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est de garder ses commandements. Vous savez, Luc, à un moment donné, il donne toute une série dans le chapitre 14 de passages qui parlent du disciple et qui parlent justement de cette notion de choix. Il dit, si quelqu'un vient à moi, dans Luc 14, vous retrouverez les passages, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et vous savez, dans les pays musulmans, c'est très concret de devenir disciple de Jésus. Chez nous, en Europe, ça va, c'est pas trop difficile, hein. C'est une option, la foi, c'est une théorie comme une autre, alors on peut changer d'option sans problème, on n'a pas de problème. Vous savez, dans les pays musulmans, quand vous devenez chrétien, vous renoncez à votre famille, vous renoncez à tout. Parce que c'est plus qu'une croyance religieuse, c'est tout un système, c'est un système même de loi. C'est une identité, l'islam. Et il y a des gens qui ont perdu, vraiment, beaucoup d'êtres chers. Il est dit un peu plus loin toujours, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Toujours le même mot, hein, mathétès en grec. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ne renonce pas. Et à un moment donné, vous êtes face à ce choix. Et un dernier passage, il est dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli est comme son maître. Tout disciple mature. Et comme son maître. Et voilà le vrai disciple, c'est celui qui ressemble à Jésus. C'est à un moment donné dans notre vie de disciple, on doit comprendre qu'on doit ressembler à Jésus, être comme lui. Alors si Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, alors on doit comprendre que mon royaume n'est aussi pas de ce monde. Si Jésus a été persécuté, a souffert, a été rejeté, alors faut pas s'attendre à ce que ce soit différent pour nous, si on veut être ses disciples à lui. On ne doit pas ressembler à Jésus dans le sens de faire tout ce qu'il a fait. Dieu ne m'appelle pas à mourir sur une croix. Heureusement. J'aime pas la douleur. Je ne supporte pas. Je ne sais pas si vous. On n'est pas en Philippines où ils font ça, ils se clouent. Non, on ne va pas faire ça. On doit suivre, je ne vais pas suivre l'exemple, faire tout ce que Jésus fait, mais je dois comprendre que l'exemple à suivre, c'est son chemin d'obéissance. Parce que Jésus a été l'homme parfait qui a obéi à son Père, parfaitement. Et nous aussi, on doit comprendre ce chemin d'obéissance. Dieu nous demande à obéir, Dieu nous demande de suivre un chemin d'obéissance. Vous savez, ça a été la première chute de l'homme, c'est d'avoir désobéi. Et la tendance de l'homme, c'est la désobéissance dans son cœur. C'est de suivre sa propre voie, penser qu'il a mieux compris que tout le monde d'ailleurs. Je fais ça d'ailleurs comme ma femme me dit, quand je suis sur la route, je lui dis toujours, j'ai toujours mieux compris qu'elle. Je dis, oh non, je pense que c'est par là-bas. Et puis finalement, je me suis trompé. J'aurais mieux fait d'écouter ma femme. On a toujours mieux compris que les autres. Et Jésus nous entraîne dans ce chemin d'obéissance. Et on doit être à sa ressemblance. Mais en même temps que Jésus a été persécuté, a souffert, en même temps, il est ressuscité. Et en même temps, si ça s'est arrivé aussi à Jésus, il va aussi nous faire participer à cette gloire. À cette vie de résurrection. Vous savez, moi j'aime mon maître, j'aime Jésus vraiment, parce que c'est pas un maître comme les autres. Je veux vraiment être son disciple, parce que il va jamais rien nous demander que lui n'a pas fait. Et ça m'aide à avancer dans ma vie chrétienne, dans ma vie de foi, parce que c'est pas le chef qui va te dire le chef qu'on a, le chef de à la boîte, qui vous dit bon, tu m'apportes les cafés, tu me fais les photocopies. Il a les pieds sur la table, tu bosses tout pour lui. C'est pas, ou bien le chef de, je sais pas, l'armée qui vous dit, bon, les gars, on va attaquer. Demain, on va attaquer l'ennemi. Alors, tout le monde devant, allez-y. Bon, on n'a pas beaucoup d'armes, mais moi, je suis derrière. S'il y a un problème, vous m'appelez, hein. C'est pas ça. Jésus, c'est celui qui est devant, qui est au front, qui ouvre le chemin, qui ouvre la brèche. C'est celui qui, quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mer, de la mort, il est avec nous. Il est avec nous sur ce chemin. Il vient vraiment, et il vient seulement, pas seulement nous chercher dans notre souffrance, mais il vient nous en sortir aussi et nous amener dans sa gloire. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est pour ça que j'aime Jésus. Parce qu'il peut aussi comprendre dans quelle situation je suis des fois. Ça va être rejeté. Oui, il sait ce que c'est que le rejet. Il était rejeté de ses frères. Il était rejeté de tous. Même ses disciples, à un moment donné. Vous savez, à un moment donné, après le repas de la Sainte-Cène, qu'on a vécu tout à l'heure, dans la nuit où il fut livré, ils sont tous partis, ils ont tous fui. Avec les femmes qui sont restées. Et Jean, jusqu'au pied de la croix. Même Pierre l'a renié, à un moment donné. Donc Jésus, il sait ce que c'est que d'être rejeté. Il sait ce que c'est que la souffrance. Et il veut vraiment nous rejoindre aussi, là-dedans. Alors j'aime mon maître. J'aime être disciple de ce maître-là. Je termine. Le peuple de Dieu, donc, a une mission, faire des disciples, ce que je vous ai dit, et garder ses enseignements. Je vais terminer par deux remarques. Je trouve que, étant chrétien depuis longtemps dans l'Église, je remarque qu'on fait un peu une erreur. Quand on lit ces passages, en tout cas, c'est qu'on fait un peu les choses à l'envers. On fait des disciples dans l'Église, ça veut dire qu'on s'excite sur les pauvres fils de chrétiens qu'on a, on leur dit « il faut que tu donnes ta vie à Jésus », tout ça. Et puis à l'extérieur, on moralise les gens. On leur dit « voilà, la vie chrétienne c'est ça », tout ça, ça leur donne surtout pas envie de venir. On leur dit « voilà ». Et on les transforme pas, on n'est pas témoins. On leur dit « il faut faire ci, il faut faire ça », etc. D'ailleurs, quand il y a une nouvelle personne qui vient dans l'Église, on lui dit, c'est pas bien de fumer, vous savez. Enfin, tout ça, quoi. Moi, j'ai grandi dans l'Église, j'ai entendu tout ça. Et ça, il faut en être conscient qu'on a cette mentalité-là. On a un peu de tendance à faire les choses à l'envers. Mais vous savez, à l'extérieur, les gens vont venir, jamais devenir disciples de Jésus si c'est pas passé quelque chose dans leur vie. Si on réfléchit, même avec le peuple d'Israël, c'est ce que Dieu a fait. Dieu n'a jamais donné la loi en premier, et puis après, il a fait l'exode. Il a d'abord fait l'exode. Il a d'abord libéré le peuple. Il a libéré le peuple de l'esclave de Pharaon. Il s'est passé quelque chose. Ils ont vécu une libération. Il les a emmenés dans le désert et là, il leur a donné la loi. Gardez mes commandements. Alors, faisons pas les choses à l'envers. Faisons comme Jésus nous a montré. Transformons les gens. Enfin, soyons témoins. Faisons l'œuvre de Dieu. Que les gens vivent quelque chose, soient libérés. Et après, enseignons-leur. Après, donnons-leur l'enseignement de la parole de Dieu. Leur dire, voilà, qu'est-ce que c'est être chrétien, etc., etc. Et ne faisons pas ça dans l'Église parce que on est tous disciples ici. Je termine de dire que il n'y a pas de limite. Dans le passage, les quelques versets que je vous ai lus, il y a 4 fois le mot tout qui revient. 4 fois. Alors 2 fois, c'est en rapport avec nous, parce que Jésus nous demande de faire de toutes les nations des disciples, et nous demande de garder tous ses enseignements. On peut dire, c'est énorme, faire de toutes les nations des disciples. Et surtout qu'il faut se mettre à la place des disciples. Juste au verset 17, il est dit, quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Même les disciples, alors qu'ils voient Jésus ressuscité, ils ont encore des doutes. Au verset 17, juste avant. Alors vous imaginez, juste après, quand Jésus leur dit, mais il faut faire de toutes les nations des disciples, et vous êtes que ce petit nombre, et tout ça. Ben regardez comme le texte est bien fait. C'est encadré par 2 autres tout. Regardez au verset 18, Jésus s'approcha et leur parla, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Amen. Toute autorité, c'est le même mot, en grec, exousia. Et après au verset 20, il est dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ah, Jésus est avec nous. Ouf. On n'a pas douté. Faire des disciples, eh ben, il nous a donné tout pouvoir. Il va nous accompagner à être témoins. Il va nous protéger. Dans ce monde, peut-être, où on a des peurs, des craintes, il est avec nous. Gardez ses commandements. Il est tous les jours avec nous pour les rappeler par son esprit. Il ne nous abandonne pas. Parce qu'on se dit des fois, mais qu'est-ce que je dois garder? Comment faire? Comment je vais décider? Quelles vont être les tentations dans ma vie? Comment je vais discerner ta volonté? Je suis tous les jours avec vous. Jusqu'à la fin du monde. C'est pas un peu. Alors merci Seigneur. Merci de ces promesses. Qu'on puisse être vraiment cette église sans tache ni ride que tu viendras chercher. De la même manière que tu es parti sur le mont des Oliviers, tu reviendras, tout œil le verra, tu reviendras chercher ton église. Amen. Prions. Merci Seigneur parce que ta parole est la vérité. Tu es la vérité. Et tu nous apprends encore ce matin ce qu'est être disciple. Tu nous apprends encore ce chemin d'humilité. Et on veut s'asseoir comme les disciples faisaient au pied de leur maître et apprendre de toi encore. Seigneur, je te prie pour chacun ici présent ce matin. Merci parce que chacun s'est approché de toi, t'a connu. Merci pour la vie de chacun. Mais peut-être ce matin, Seigneur, il y a des gens qui sont découragés, fatigués d'être dans une société où peut-être on est rejeté, persécuté, où on est dans des situations de difficulté. Mais Seigneur, tu nous appelles à être cette sel et cette lumière. Alors Seigneur, je te prie pour chacun ce matin, que tu puisses renouveler les forces de chacun, renouveler par ton esprit aussi. Tu puisses remplir, Seigneur, chacun ce matin, afin que nous puissions être des faiseurs de disciples, des témoins dans cette société, des témoins de ton amour, des témoins de ce que tu as fait pour nous, et de ne pas avoir peur de le dire, d'être courageux, et parce que tu vas nous délivrer de la crainte des autres, parce que tu vas nous apprendre à craindre ton nom. Merci Seigneur pour ta grâce encore, que tu puisses la faire couler sur cette église. Merci pour son amour aussi pour les gens de l'extérieur. Je te prie, tu continues à développer cela dans le cœur de chacun. Et que, Seigneur, tu nous apprennes aussi à garder tes enseignements. Gloire te soit rendue. Amen.